Les 10 575 natifs doivent encore patienter un peu. Ils pourront vérifier qu'ils figurent bien sur la liste spéciale provinciale le 18 juin. En attendant, les procédures pour les inscrire se poursuivent. Explication dès le début du journal. Unis pour le pays, c'est le nom de la liste Unis dans la province sud. Elle est conduite par l'ancien président du gouvernement, Louis Mapou. Air Calédonie a repris ses rotations vers Lifou. La compagnie domestique assure de nouveau la liaison entre la Tontouta et Wanam. L'actualité en métropole et l'étau se resserre. Le principal suspect dans la disparition de la jeune Liana, 11 ans, est visé par 3 procédures pour viol sur mineur. Le sport du tennis et Flavio Cobolli qui fait chuter Félix Auger-Aliassime en quart de finale de Roland-Garros. Il retrouvera un compatriote italien dans le dernier carré, soit Matteo Berrettini, soit Matteo Arnaldi. La météo en Nouvelle-Calédonie, le temps est bien souvent ensoleillé avec, sur le nord-est et Ouvéa, des nuages un peu plus nombreux qui peuvent donner quelques gouttes. Les températures maximales sont en baisse avec 24 à 27 degrés de l'île des Pins au nord de la côte est.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, les élections provinciales.
Oui, élections qui se préparent. La liste électorale spéciale provinciale sera publiée le 18 juin prochain. Et c'est donc à ce moment que les natifs pourront vérifier qu'ils sont bien inscrits. La loi organique qui valide l'inscription d'office des natifs sur la liste électorale spéciale provinciale, la LESP, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 28 mai dernier. L'inscription des natifs est donc acquise, mais elle passe par un certain nombre de procédures. Car si le texte de loi est promulgué, il faut respecter plusieurs étapes. Et comme l'explique Alan Boufnesch, le secrétaire général adjoint à la mairie de Nouméa, cela commence justement par un travail au niveau des communes.
L'ISE vient d'envoyer à l'ensemble des communes la liste des personnes qui sont sur le tableau annexe des communes, qui sont natives et donc qui vont être proposées à l'inscription d'office dans les commissions électorales spéciales. Ces commissions débutent à partir du lundi 8 juin, donc lundi prochain, et la liste sera totalement arrêtée à compter du 18 juin qui arrive. Donc entre le 8 et le 18 juin, on rentre dans ce qu'on appelle une zone de silence pendant laquelle on ne peut pas indiquer aux gens s'ils sont inscrits ou pas. Néanmoins, pas de panique, les communes travaillent en ce moment de concert avec l'ISE pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette.
Et ce n'est donc que le 18 juin que les natifs pourront vérifier qu'ils sont bien inscrits sur la LESP. À partir de cette date, ils pourront pour cela se rendre sur le site électeur-nc.fr. En cas de problème, un recours sera possible auprès du tribunal de première instance. Ce sont donc quelques 10 575 électeurs supplémentaires qui attendent de pouvoir voter aux prochaines élections provinciales. Et leur répartition est inégale selon les provinces. La majorité de ces natifs réside en province sud et le corps électoral provincial devrait grossir de 9 240 électeurs supplémentaires, ce qui représente une augmentation d'environ 8%. La proportion est moindre dans les autres provinces. 795 natifs doivent être inscrits en province nord et 540 dans les îles, ce qui représente une hausse du corps électoral de respectivement 1,9% et 2,5%. Toujours dans l'actualité liée à ces élections provinciales, Unis pour le pays, c'est l'intitulé de la liste présentée en province sud par l'UNI, une liste conduite par Louis Mapou qui appelle à une province au service du peuple de la Nouvelle-Calédonie. Il l'a présentée hier après-midi au parc Fayard à Dimbéa, Elisabeth Noir.
Après la liste FLNKS, il y aura donc bien une autre liste indépendantiste en province sud, une liste constituée par l'UNI, c'est-à-dire le PALIKA, l'UPM et l'UNID, et elle entend bien faire entendre sa différence. Son premier objectif, reconnaît son chef de file, Louis Mapou, c'est de franchir la barre des 6300 voix nécessaires en province sud. Mais il rappelle que la liste unitaire constituée en 2019 par l'ancien FLNKS avait recueilli 11 000 voix, alors qu'il évalue à 30 000 le potentiel indépendantiste dans la province sud. Mais l'UNI souligne que la Nouvelle-Calédonie est face à une crise majeure depuis 2024 et qu'il faut lui redonner des perspectives, notamment en parlant de l'avenir institutionnel. Et pour cela, la province sud est un terrain idéal.
La province sud, c'est la Nouvelle-Calédonie en miniature. Toute la Nouvelle-Calédonie est dans la province sud, dans toutes ses caractéristiques, dans son histoire, dans ce que ça représente, dans ses difficultés, comme les événements de 2024 nous l'ont rappelé. Donc c'est cette province-là qui est au cœur du challenge qui se présente devant nous. Mais ce que nous voulons signifier, c'est que c'est une responsabilité. La province ou les provinces ont été créées à partir de 1988, souvent pour construire des politiques qui vont dans le sens d'un rééquilibrage général de la Nouvelle-Calédonie. Nous considérons, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, que les provinces gardent leur intérêt, leur utilité, mais ils doivent, pour ce qui nous concerne, être habités par une nouvelle mission, celle de concourir ensemble, de travailler en complémentarité, moins en concurrence comme on a tendance à le faire.
des provinces qui travaillent en complémentarité. L'hyperprovincialisation ne nous convient pas du tout, ajoute Louis Mapou. Mais il relève que très peu de listes parlent de l'avenir dans cette campagne provinciale. Et lui, il veut en parler. Il rappelle que l'UNI a participé à toutes les discussions sur l'avenir institutionnel. Et aujourd'hui, il se dit prêt à discuter sur un spectre qui va de Deva à l'accord de Kanaky. L'UNI est pour un accord global et elle est persuadée qu'il faut reprendre les discussions et les aboutir avant septembre.
Nous avons bien enregistré qu'avec le Premier ministre et toutes les composantes politiques de la Nouvelle-Calédonie, il y a eu des engagements qui ont été pris pour qu'on reprenne les discussions après les provinciales. Donc nous avons convenu que nous étions prêts à reprendre les discussions sur l'avenir. Parce que nous pensons qu'il faut jouer toutes les cartes possibles dans le cadre de ce mandat qui est encore sous la responsabilité du président Macron. Et nous avons une fenêtre de tir entre le mois de juillet et le mois de septembre pour essayer de trouver un accord.
De toute façon, l'UNI estime que le principe de l'indépendance est tranché, qu'elle est acquise, irréversible, et qu'il faut la construire avec tout le monde. Louis Mapou déclare même que tous ceux qui se revendiquent du centre sont désormais partisans de l'indépendance avec partenariat.
Ce que nous proposons aujourd'hui, à la suite de ce que nous avons déjà dit, c'est que nous proposons qu'on aille sur une perspective de constitution en Nouvelle-Calédonie d'une souveraineté en partenariat avec la France. Nous le disons avec force aujourd'hui, d'autant qu'on s'aperçoit qu'il y a une grosse partie des formations politiques aujourd'hui qui se prononcent ouvertement pour la souveraineté en partenariat. On a noté avec satisfaction que tous ceux qui se revendiquent du centre aujourd'hui nous ont rejoints sur ces objectifs-là. Et donc, considérant en même temps les évolutions que nous avons pu acter dans le cadre des négociations, nous pensons qu'à partir des élections provinciales, il faut qu'on discute ouvertement du chemin de l'accès à la pleine souveraineté.
Louis Mapou qui conduit donc la liste Union pour le pays. Il a présenté quelques membres de sa liste. En deuxième position, Inès Couetté. En troisième position, le membre du gouvernement Claude Gambet. On trouve ensuite Virginie Paillard, Franck-Gérald Bonnard et Bella Poigoune. Voilà pour les premiers.
Merci Elisabeth Noir.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. L'UNI a-t-elle raison, selon vous, d'aller au provincial dans la province sud sans le FLNKS? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'elle a tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier à présent, 72% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les listes présentes aux élections provinciales n'ont pas à prendre en compte les différentes sollicitations qui émanent des associations ou des chambres consulaires. Ils sont donc 28% à penser à l'inverse qu'ils doivent tenir compte de ces sollicitations. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, le rassemblement de Téné 2026 se prépare. Il est précédé, comme chaque année, par le rassemblement des jeunes qui peuvent aussi, depuis 2023, être accompagnés par leur famille. Les jeunes chrétiens de tout le territoire se rassembleront sur l'hippodrome de Bourail à partir de lundi prochain, le 8 juin, jusqu'au pèlerinage de Téné, le samedi 13 juin, et la grand-messe de clôture le lendemain dimanche. Alors, quelles sont les attentes des jeunes? Que cherchent-ils dans ce grand rassemblement? Notre invité tout à l'heure à 7h30 sera Simon Pierre. C'est lui, le président du comité Marche pour Notre-Dame de Téné. Et puis structurer la filière fruits et légumes, c'est la volonté de la Chambre d'agriculture et de la pêche qui organisait en début de semaine une rencontre entre tous les acteurs concernés en partenariat avec l'IFEL et l'Agence Rurale. Pourquoi et comment structurer cette filière? Ce sera le thème ce midi des Jeudis de l'économie. Jean-François Baudin recevra Franck Paquier qui est gérant de Boco, François Haas qui est responsable du pôle alimentation et développement durable à la Chambre d'agriculture et Morgane Ferret qui est la directrice de COP1. Il est 6h passé de 41 minutes. Merci d'être avec nous dans ce journal. On va marquer une première pause publicitaire avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire et notamment l'actualité judiciaire avec les condamnations donc qui ont été prononcées hier aux assises.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Optique Boulary, la solution pour vos lunettes avec contrôle de la vue, même sans ordonnance. Vos marques préférées, Oakley, Maui Jim, Michael Kors, Ray-Ban et votre seconde paire, offert toute l'année. Optique Boulary, l'opticien du Mont d'Or.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. Stop aux hôtels classiques et aux petites chambres. À l'hôtel du centre, profitez de studios 3 étoiles de 30 mètres carrés avec vraie cuisine, lave-linge, sèche-linge, parking et wifi gratuit. Hôtel du centre, tout le confort au meilleur rapport qualité-prix. Réservé au 230 700 ou sur www.hôteldducentre.nc.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'actualité judiciaire aux assises de la Nouvelle-Calédonie avec le verdict de la dernière affaire de sang de cette session. Quatre hommes étaient jugés pour vol à main armée, délit de fuite après un accident de la route et des blessures involontaires. Les faits remontent au 16 octobre 2022 lors du cambriolage de la station mobile de la Coulée, Léana Colombo.
L'accusé principal à l'origine du braquage écope de 15 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des deux tiers. Le deuxième accusé, 12 ans d'emprisonnement avec la même période de sûreté. Le troisième a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. En revanche, les jurés ont acquitté le dernier accusé et suivi les réquisitions de l'avocat général, le ministère public, qui avait requis 12 ans de réclusion criminelle pour les trois autres accusés. Jusqu'à vendredi, place à la dernière affaire jugée lors de cette deuxième session d'assises de l'année. Elle concerne un jeune de 17 ans au moment des faits. Il est accusé d'avoir violé une femme à Dumbéa le 10 mars 2024. Il sera jugé devant la cour d'assises des mineurs et encourt une peine de 15 ans de réclusion criminelle.
Dans le reste de l'actualité ce matin, la reprise des vols d'Air Calédonie vers Lifou. Comme annoncé, une liaison a bien été effectuée ce mercredi matin entre l'aérodrome de Wanaham et l'aéroport de la Tontouta. Un premier départ qui a été retardé d'environ une heure en raison d'un problème technique. La TR-72 de la compagnie a finalement effectué une rotation entre Tontouta et Lifou avec une dizaine de voyageurs à bord. La reprise progressive des vols a donc été confirmée par Aircal. Les précisions de Marion Gentelet, la responsable commerciale à Air Calédonie.
C'est très important pour la compagnie, cette possibilité de reprendre une desserte de Lifou. Donc il était essentiel pour toutes nos équipes et puis pour les populations aussi qui étaient en attente d'assurer un premier vol très rapidement. Dans les prochains jours, nous avons également un vol quotidien qui est prévu sur Lifou. Les réservations sont en bonne progression, sachant de plus qu'il y a les vacances scolaires vendredi soir. C'est important aussi sur Lifou de pouvoir proposer, notamment aux professionnels, mais pas uniquement, la possibilité de faire un vol en aller-retour journée, on va dire, pour pouvoir passer la journée sur place, soit à Lifou pour ceux qui viennent de Nouméa, soit sur Nouméa pour ceux qui sont sur Lifou. Donc on a mis ça en place pour effectivement le vendredi proposer cette possibilité. Donc on est plutôt sur une rotation quotidienne avec la petite spécificité du vendredi de proposer deux rotations, évaluer au fur et à mesure l'intérêt en fait que nos clients auront pour ce programme de vol. Nous avons la capacité de proposer des vols complémentaires assez rapidement si nous voyons que la demande était plus importante que ce qu'on avait imaginé.
Et une nouvelle rotation Lifou-Tontouta est prévue aujourd'hui avec un départ de la Tontouta à 10h10 pour une arrivée à Lifou à 10h50. Vendredi, ce sont deux rotations qui sont d'ores et déjà planifiées entre la Grande Terre et Lifou. À noter que justement à Lifou, un dispositif de gendarmes était déployé hier à Wanaham au moment du retour de l'appareil de la compagnie Air Calédonie. Il n'y a pas eu d'incident avec le collectif qui reste toutefois toujours mobilisé et qui manifeste encore son opposition à la reprise des liaisons aériennes de la compagnie depuis le déménagement de Magenta vers la Tontouta. L'actualité institutionnelle à présent et les élus du Congrès qui étaient réunis hier, une partie de l'après-midi en séance publique. À l'ordre du jour de cette séance, qui n'est pas terminée, l'examen de deux propositions de délibération et l'examen d'un avis du Congrès. Lionel Sabot.
En ouverture de cette séance, les élus, qui n'étaient qu'une quinzaine présents, ont procédé à l'examen d'un projet de délibération relative à la mise en place d'une assemblée citoyenne au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Une assemblée qui sera constituée de 24 membres. Le texte examiné et adopté avait été déposé par la présidente du Congrès, Velma Falaeo, et par Vaimua Mudiava.
C'est la première fois ici qu'on va se lancer dans une telle expérience qu'est une assemblée citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire rentrer les citoyens, ceux-là qui vivent les conséquences d'une décision, intégrer le fonctionnement. C'est aussi un incubateur de citoyens. Beaucoup de citoyens ne savent pas comment notre pays fonctionne, qui exerce quelles compétences. En 2026, il y en a qui ne le savent pas. Donc c'est aussi un exercice, moi j'appelle ça un incubateur de citoyens. Là, c'est co-décider, faire participer les citoyens avec des citoyens qui auront été élus. C'est une forme de dialogue, un chemin retrouvé entre la population et les décideurs.
L'examen de ce texte n'a occasionné aucun débat. Un texte qui a été voté à l'unanimité. Virginie Ruffneck est la présidente du groupe Rassemblement au Congrès.
Cette assemblée citoyenne qui sera mise en place au niveau du Congrès, ce n'est pas quelque chose qui enlève la légitimité des élus du Congrès, mais au contraire, ça enrichit les travaux que nous menons ici dans cette assemblée avec un regard neuf, un peu différent, et qui, j'en suis sûre, sera une plus-value aux décisions que nous prendrons dans cet hémicycle. La décision revient de toute façon aux élus, mais le travail qui est fait par cette assemblée citoyenne enrichira effectivement les travaux que nous menons. Un tel dispositif nécessite quelques indemnisations, puisque les gens travaillent, qui seront désignés pour participer à cette assemblée citoyenne. Le budget qui est prévu aujourd'hui annuellement n'est pas très important, il est de l'ordre de 4 millions de CFP. On trouve finalement que c'est très raisonnable par rapport à l'enjeu qui est celui d'une plus-value de la société civile dans la prise de décision des élus en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai simplement indiqué qu'il fallait que ces montants soient encadrés pour faire en sorte qu'on n'ait pas effectivement de dérive à ce niveau-là.
Et après l'examen de ce texte, les élus ont rendu un avis favorable sur un texte très technique, un projet d'arrêté portant désignation des personnalités qualifiées indépendantes au sein des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales spéciales. Les élus ont également débuté l'examen de plusieurs propositions de délibération portant, pour faire simple, sur le règlement intérieur du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'examen de cet texte a finalement été suspendu, tout comme la séance, puisqu'il n'y avait plus assez d'élus dans l'hémicycle du boulevard Vaux.
Et les élus se retrouveront donc demain, vendredi, à partir de 9h, pour poursuivre l'examen de ces textes. Toujours dans l'actualité institutionnelle, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie tenait hier sa séance hebdomadaire, Léana Colombo.
Et on retiendra des décisions du jour, l'approbation du compte administratif et du compte de gestion de l'exercice 2025 des budgets annexes de reversement et de répartition du territoire. L'exécutif a également arrêté une délibération cadre portant approbation d'un programme d'action pluriannuel en matière d'affaires coutumières. L'objectif et de faire évoluer le cadre juridique existant afin de répondre pleinement aux enjeux contemporains avec 5 piliers prioritaires. La modernisation de l'état civil et des successions, la valorisation économique des terres coutumières, la refonte de la gouvernance, la régulation sociale et la protection des valeurs. Le gouvernement a aussi pris un arrêté portant sécurisation fiscale et douanière du carburant dans le cadre du dispositif Soutien Carburant Pro.
En bref, Tanéo fait évoluer sa gamme tarifaire à compter du 8 juin prochain. Cette évolution s'articule autour de trois mesures principales. Le lancement d'un nouvel abonnement mobilité professionnelle destiné aux actifs utilisant régulièrement le réseau. Il sera de 6 000 francs par mois ou 15 000 francs par trimestre. 30 à 40% des usagers du réseau pourraient être concernés. Il y a également la baisse des plafonds mensuels pour les usagers réguliers, ce qui veut dire que la gratuité sera aussi atteinte plus tôt dans le mois pour les passes Liberté et Senior. Ainsi que le maintien des dispositifs de solidarité républicaine pour les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap. Et enfin, tout est bien qui finit bien. En juillet dernier, une tortue verte était retrouvée gravement blessée par un bateau au niveau de la carapace. Après de nombreux soins prodigués, Gabriel a enfin retrouvé son habitat naturel. C'était hier devant un public venu nombreux pour l'occasion, Léana Colombo.
Oui, cela faisait 10 mois que Gabriel bénéficiait de soins à l'aquarium des Lagons. La tortue de 130 kilos avait été gravement blessée par un bateau puis retrouvée par des passants. Après plusieurs interventions chirurgicales et des mois de convalescence, la voilà sauvée pour le plus grand bonheur de sa vétérinaire Isabella Lac.
C'est un rêve qui se réalise parce que c'était pas gagné du tout, du tout. Au départ, fin juillet, j'étais appelée pour faire une euthanasie, au départ, d'une tortue qui a subi une collision avec un bateau, qui était ouverte, qu'on pouvait rentrer dans la cavité solémique, donc vraiment des très gros dégâts. Après deux chirurgies vraiment longues et troisième intervention juste pour retirer les plaques et beaucoup de soins au laser, au miel, on a cette immense joie de voir que ça a payé. La tortue, elle est aujourd'hui vivante. Elle est en pleine forme, elle peut continuer sa vie, elle peut continuer à se reproduire et du coup faire perdurer son espèce.
Plus d'une cinquantaine de curieux venus pour l'occasion ou présents par hasard ont assisté à son relâcher, un événement loin d'être banal qui n'aura laissé personne indifférent.
C'est impressionnant, c'est sûr, elle est gigantesque. Et puis ça fait plaisir, j'espère que je la croiserai sous l'eau un moment. C'est hyper émouvant, je pense, pour les équipes et tout.
Ah oui, un an de travail dessus, c'est une belle récompense.
J'ai beaucoup aimé le moment où elle est allée dans l'eau et quand elle voulait aller vers l'eau.
C'est vraiment magnifique et très impressionnant à voir. C'est sûr que c'est pas une chose qu'on verra tous les jours et c'est très bien d'y participer.
Génial, non seulement c'est impressionnant, mais de voir une aussi grosse tortue comme ça et être dans son environnement, de voir comment elle avance sur le sable, elle a fait une petite pause et tout. Je sais pas si elle est fatiguée ou quoi, mais c'est tellement beau. Enfin, je trouve ça trop beau de voir une tortue dans son élément, de nager sur du vrai sable, on va dire, pas du sable artificiel, et de retrouver l'eau et de prendre ses aises, quoi.
La dernière tortue à avoir retrouvé son habitat naturel était Samy, une tortue grosse tête découverte attachée dans la mangrove de Coutiou en septembre 2025. Elle avait été relâchée 2 mois plus tard, le 27 novembre, à Lansvata.
Merci Léana Colombo. Il est 6h52. On marque une nouvelle pause publicitaire et on se retrouve après pour l'actualité en métropole et les suites de l'enquête sur la disparition de la jeune Liana.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Pour limiter les sources d'épidémie, purifiez l'air intérieur avec le spray pur essentiel assainissant aux 41 huiles essentielles 100% naturelles. 15 études scientifiques prouvent son efficacité et sa parfaite tolérance. À la maison, au travail, partout avec vous, faites confiance à la force 100% pure et unique du spray aérien pur essentiel assainissant pour éliminer virus et bactéries. En pharmacie et parapharmacie, pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lansvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
C'est officiel, Petit Bateau débarque à Nouméa. Samedi 6 juin, ne manquez pas l'événement au complexe La Promenade à Lansvata. Les 100 premiers clients repartiront avec un cadeau surprise. Découvrez l'univers intemporel de Petit Bateau, des vêtements de la naissance à 14 ans, sans oublier l'univers de la femme. Des surprises et de la bonne humeur vous attendent toute la journée. Petit Bateau Nouméa, une histoire qui commence avec vous. Petit Bateau, l'élégance à la française pour toute la famille.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Info Matin. On retrouve Nicolas Legrand.
Et toujours, aucune nouvelle donc de la jeune Liana. Depuis vendredi dernier en métropole, la collégienne a été aperçue pour la dernière fois devant le collège de Florence à bord du véhicule du père de l'une de ses amies, le dénommé Jérôme B. Au 6e jour de recherche, la procureure de la République d'Auch a donné une conférence de presse afin d'éclaircir les nouveaux éléments de l'enquête. Elle apprend notamment que le suspect était ou est sous le coup de multiples procédures pour viol. Charles Bouchin pour Europe 1.
Oui, au total, 3 plaintes pour viol ont été déposées à l'encontre de l'homme de 41 ans. La première en 2022 pour des faits qui remonteraient à 2020 au domicile de Jérôme B. Mais l'affaire a été classée sans suite. Puis vient une plainte en 2025. La jeune fille a dénoncé des faits de viol également au domicile de Jérôme B. Il devait être placé en garde à vue prochainement pour une audition. Enfin, une dernière plainte a été déposée ce matin. Ces différentes procédures vont être regroupées, indique la procureure d'Auch.
Les enquêtes judiciaires ouvertes pour viol sur mineur vont se poursuivre et vraisemblablement faire l'objet d'un regroupement. Il est tout à fait envisageable également que la procédure qui avait fait l'objet d'un classement sans suite en 2024 soit aussi réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations.
Une main courante avait été aussi déposée par la mère d'une lycéenne de 17 ans. La jeune fille affirmait avoir une relation consentie avec le suspect. Un dirigeant d'établissement scolaire a également indiqué avoir licencié cet homme après une relation inappropriée avec une lycéenne alors qu'il était agent d'entretien.
Et parallèlement, Laurent Nunez annonce avec le ministre de la Justice l'ouverture d'une enquête administrative qui sera confiée à l'inspection générale de la Justice et à l'inspection générale de la Gendarmerie nationale. Objectif, identifier d'éventuels dysfonctionnements dans ces affaires reliant ce principal suspect. Pas de comparution devant le tribunal correctionnel. La nuit dernière, les juges n'ont pas entendu de nouveaux émeutiers présumés. Une quarantaine de dossiers a jusqu'à présent été examinés en comparution immédiate. Et toujours aucun émeutier derrière les barreaux après les violences urbaines qui ont éclaté après la victoire du Paris Saint-Germain. Pas de prison ferme, beaucoup de sursis et des travaux d'intérêt général. Emmanuel Macron avait pourtant promis d'être intraitable et ce, pour la deuxième année consécutive. Et pourtant, Sébastien Lecornu propose maintenant d'instaurer le principe de casseur-payeur. Les détails avec Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Le Premier ministre fait savoir qu'il demande à ses ministres de travailler à la mise en place d'un système qui permettrait de faire payer les dégâts de samedi dernier directement par leurs auteurs. Matignon évoque même la possibilité de recouvrir les sommes correspondant aux réparations via les prestations sociales, sans précision à ce stade sur la manière d'y parvenir. Mais cela traduit la volonté du gouvernement d'aller au-devant d'une forme de fatalisme qui s'est emparée de l'exécutif face à la clémence des juges. Les leviers semblent en effet limités à moins d'un an de la fin du double quinquennat d'Emmanuel Macron, d'autant que la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon évoque un phénomène durablement ancré dans la société.
On est face à des populations qui sont très jeunes, un tiers de mineurs. C'est aussi une question de société, là encore, celle de l'autorité parentale, qui doit probablement être interrogée et remise au cœur du débat.
Et à l'Élysée, on concède que le sujet de l'ultra-violence des mineurs fera partie de la prochaine campagne présidentielle, manière de reconnaître à demi-mot l'échec d'Emmanuel Macron sur la question.
Et puis ce sondage pour Europe 1 CNews, le JDD, 85% des Français sont pour l'utilisation de la reconnaissance faciale, notamment par vidéosurveillance pour identifier les casseurs lors des violences urbaines. Il est 6h57, vous écoutez Radio Rythme Bleu, merci d'être avec nous. On marque une dernière pause publicitaire avant de voir l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Cette année, les saveurs du caillou sont à l'honneur. Les 6 et 7 juin, rendez-vous à la salle des expos de Nouville pour le salon de la gastronomie. Deux jours d'animation, de dégustation et de démonstration culinaire avec des chefs locaux, producteurs, artisans et marques du territoire. Chef en live, dégustation de produits locaux, finale du concours Top Chef du Caillou, atelier pour enfants, les saveurs du Caillou, le rendez-vous gourmand à ne pas manquer. Un événement Pacific Fair en partenariat avec RRB.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Ce mois-ci, chez Maison Thirier, le duo moule frites est de retour. Pour l'achat d'un kilo de moule, profitez d'un kilo de frites pour 100 francs de plus, soit le tout à 1190 francs seulement. Offre valable dans vos 4 magasins, Ansvata, Apogoti, Faubourg et Magenta, dans la limite des stocks disponibles. Maison Thirier, seul le bon crée du bonheur.
Tout le sport, en 3 lettres, RRB.
Excellent début de journée. L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Du tennis, et il y aura forcément un Italien en finale de Roland-Garros, et ce malgré l'élimination de Jannik Sinner. Flavio Cobolli a fait chuter Félix Auger-Aliassime en quart de finale, une victoire en 4-7. Et il retrouvera un compatriote italien qui s'appelle forcément Matteo dans le dernier carré. Ce sera soit Matteo Berrettini, soit Matteo Arnaldi qui s'affrontent en ce moment. Avantage à Arnaldi qui a gagné le premier set 7-5. L'autre demi-finale opposera Mensik à Zverev. Et puis chez les dames, on signalera l'élimination surprise de Arina Sabalenka. La Bélarusse a été sortie par la Russe Diana Schneider en 3-7. Diana Schneider qui retrouvera la surprise de ce tableau féminin dans le dernier carré. Il s'agit de Schwalinska qui continue de rêver. Issue des qualifications, la Polonaise accède au dernier carré. La gauchère au jeu très atypique a sorti Anna Kalinskaya en 2-7. L'autre demi-finale opposera Marta Kotsiouk, tombeuse de sa compatriote ukrainienne Elina Svitolina, face donc à la joueuse russe Mira Andreeva qui n'a pas eu à forcer son tennis pour se défaire de Sorana Sirstera 6-0, 6-3, une victoire express en moins d'une heure. Et puis signalons en bref qu'à 11h30 pour nous débutera le premier match de la finale de NBA entre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama et les Knicks de New York. Les deux équipes vont se rencontrer à plusieurs reprises. La première à obtenir 4 victoires sera donc sacrée en NBA.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, ça va aller vite avec vous Thierry.
Oui Nicolas, des paquets nuageux circuleront en loyauté à bord de Ranelais sans donner d'averse. Ailleurs, le soleil l'emportera largement. Le vent orienté à l'est entre 5 et 10 nœuds, voire souvent variable faible sur la côte ouest. Cet après-midi, le temps sera souvent bien ensoleillé avec le nord-est et le nord-est est ouvert. Des nuages un peu plus nombreux pour en donner quelques gouttes. Le vent orienté à l'est, toujours compris entre 5 et 10 nœuds, voire plus de 10 nœuds sur l'extrême nord. Et les températures comprises, elles, entre 24 et 27 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi.